Des averses sur le Massif central et sur les Alpes, quelques-unes aussi près de nos frontières du nord. Beaucoup de nuages toujours jusqu'au centre. Et là où il devrait y avoir le plus de soleil demain après-midi, c'est en Bretagne.
Des maths, bonjour, Gaël est à la technique et Yves Averti est au micro pour le numéro 297 de Bretagne Zone Heureuse, le magazine de l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique. Histoire de Bretagne, avec le S du pluriel pour histoire, est une après-midi avec deux conférences et aussi des crêpes et de la danse bretonne, le tout proposé ce samedi 20 mai à Nantes, à la Manufacture, boulevard de Stalingrad, par l'association Les Rues de Gralin, en partenariat avec Lorpan, Arfals, L'Accord et l'Agence culturelle bretonne. Pour nous parler de cet événement Guelbraise, fête de la Bretagne, nous recevons aujourd'hui Pierre Tourmaine, concepteur du programme de ces histoires de Bretagne. Pierre, bonjour.
Bonjour, des maths.
Et puis aussi Gilda Salin qui va présenter l'une des conférences de l'après-midi. Gilda, bonjour.
Bonjour Yves.
Pierre, l'idée de base était de proposer un événement où on puisse à la fois se divertir et se cultiver, c'est bien ça.
Voilà, alors le projet a été créé avec le bureau des projets de la ville de Nantes pour réunir les gens du centre-ville et amener quelque chose de culturel. Alors il y a besoin, toujours pour moi, la culture, on doit la relever et non la rabaisser. Donc c'est dans ce sens-là.
Et donc, mais c'est toi qui as proposé un thème breton.
C'est moi qui ai proposé le thème, entièrement.
Donc, et puis de le situer le 20 mai, le lendemain de la Saint-Yves, voilà. C'est sans doute pas le hasard également. Et donc ce thème breton, il y a un côté festif et puis un côté culture et surtout histoire. On a tellement besoin de mieux connaître l'histoire de Bretagne. Alors le côté festif, bah, il y aura des crêpes. Aussi, entre les conférences, on pourra danser aussi.
Alors on pourra danser. Et ça sera comme le kick à part, ce qu'on avait fait l'année dernière. Ça sera familial, sympathique, c'est ce qu'on veut faire.
Alors les deux conférences, les auditeurs se demandent mais qu'est-ce que ça va être ces deux conférences? Donc je vais parler de la seconde d'abord qui sera donnée par Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebeau. C'est une conférence intitulée « De Brest à Nantes ». Olivier Caillebeau et Jean-Jacques Monnier sont les auteurs du DVD « Connaissance de la Bretagne des origines à nos jours ». Et donc ils ont plein de choses à dire, donc je suppose qu'ils ne vont pas tout raconter en une seule fois, mais ils ont aussi un DVD et même un CD audio qui peuvent vendre à mon avis, et ça permet aussi quelquefois de se laisser aller et pas d'être obligé d'ouvrir un grand livre pour connaître toute l'histoire de Bretagne. Mais une partie de l'histoire de Bretagne qui est pratiquement, on va dire, la plus connue de toute l'histoire de Bretagne, des 1500 ans d'histoire de Bretagne, eh bien, c'est l'histoire qu'on connaît. Enfin, un nom connu de l'histoire, c'est Anne de Bretagne. Et Gilda, tu vas présenter donc ce samedi 20 à 15h une conférence intitulée « Anne de Bretagne, première reine médiatique ». Donc c'est toi qui proposes ce titre, c'est toi qui l'affirme.
C'est moi qui l'affirme, en effet. J'aurais presque pu mettre un point d'interrogation après, puisque le propos de cette conférence, eh bien, ça vient d'une question que je me suis posée. Et d'ailleurs, ça reprend ce que tu viens de dire à l'instant. C'est le personnage que l'on croit le mieux connaître. Et on le croit le mieux connaître parce que on la voit partout. Ah oui. On a son image partout et on a tous en tête son chaperon en particulier. Et en fait, je me suis demandé si cette image que l'on a autour d'Anne de Bretagne, est-ce elle qui l'a créée à l'époque ? Était-ce volontaire ? Ou bien est-ce une création récente, façon un peu image d'Épinal d'ailleurs, comme on peut le voir au XIXe siècle ?
Donc, eh bien, on va répondre en partie à cette question dans quelques instants et dans cette émission, mais je vous rappelle que la réponse complète, c'est ce samedi 20 à 15h à la Manufacture des Tabacs à Nantes. Donc tu as parlé des images, mais il y a aussi du son autour d'Anne de Bretagne.
Se teintent, s'ils ont couleur en la nuit qui s'éteint, viendront d'opale le lendemain
reviendront des siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
S'il mord la mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre le corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
Si moribonds sont les rois en ripaille, si leurs prisons sont des cages sans fond, viennent lors des évasions, reviennent les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre le corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
Évidemment, si mort à mort, duchesse noble dame, chantée par les Trianes, donc qui ont mis en musique ce poème de Jehan Méchineau, donc qui a été écrit à la mort d'Anne de Bretagne, et pour la renommée d'Anne de Bretagne, c'est une pierre de plus, si on veut. Et donc ensemble, il y a quelques années déjà, Gilda, nous avons vécu quelque chose grâce à toi. C'était au musée d'Aubray, où tu travailles, tu es conservateur au musée d'Aubray, et nous avons vu les Trianes chanter cette chanson, les trois gens, a cappella, avec quelques personnes autour de nous, face au chœur d'Anne de Bretagne.
Effectivement, et le chœur d'Anne de Bretagne fera partie des objets dont j'aurai l'occasion de parler pendant cette conférence, puisque pour étudier justement la stratégie médiatique, si je puis dire, d'Anne de Bretagne, je vais parler des pièces de monnaie. Il y en avait d'ailleurs à côté du chœur lorsque les Trianes sont venus chanter. Mais je parlerai aussi d'architecture, d'enluminure, de sculpture, etc.
Donc en fait, la réponse à la question « Est-ce que c'est elle qui a tout décidé elle-même ?» La réponse est oui.
La réponse est oui. En effet, elle a tout décidé elle-même. Elle avait quand même des conseillers autour d'elle qui ont mis en place, justement bâti cette identité et qu'ils l'ont bâti avec elle, bien entendu. Et parmi les grands personnages aussi, on pourrait parler de Pierre Choc, qui était son héros d'armes. Et en fait, c'était même son job à cet homme que de glorifier cette princesse. Mais elle, et sans rentrer dans tout le menu de ma conférence, parce que en plus elle est visuelle, il faut être présent, c'est une période vraiment de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et c'est aussi pour cela du coup que j'affirme qu'elle est la première reine médiatique, puisque l'on va passer d'une communication, même si le terme est un peu anachronique, mais d'une communication par les symboles à une communication par la personne. Et en fait, c'est ça. Tout l'enjeu de l'étude d'Anne de Bretagne, c'est comment on fait pour installer sa personne.
Mais alors justement, est-ce que ce ne serait pas quand même une personne exceptionnelle, ou c'est les situations, la situation qui a fait qu'elle est devenue une personne exceptionnelle, parce qu'on dit toujours deux fois reine de France, elle est la seule qui a été deux fois reine de France. Et ce n'est pas ce genre d'éléments ou d'événements qui ont fait qu'elle est devenue ce qu'elle est.
Alors, je pense que c'est pas tant qu'elle a été deux fois reine. En revanche, il y a une différence entre la première et la deuxième fois. C'est-à-dire que la première fois, quand elle était mariée à Charles VIII, on voit très peu de représentation d'Anne et toujours en position d'infériorité. En revanche, lorsqu'elle épouse Louis XII, là, on va voir une égalité parfaite. Ce sont deux princes souverains. Et avant tout, et c'est aussi cela qui est toute la force de l'iconographie d'Anne de Bretagne, c'est de montrer son pouvoir souverain. Elle est, pour synthétiser, et je vais le montrer, Anne en France était la reine parce qu'elle était l'épouse du roi. Mais en Bretagne, Louis était duc parce qu'il était le mari de la duchesse. Et ça, c'est très clair, et c'est sur un pied d'égalité. En fait, chaque élément iconographique, que ce soit une couronne, un blason, un animal, etc., etc., à chaque fois qu'il y a un élément pour Louis XII, il y a exactement à l'identique Anne de Bretagne.
Donc quand elle s'affirmait, c'est quand elle est devenue pour la deuxième fois reine de France. Mais auparavant, dans son éducation, est-ce que tout la portait à se mettre en avant de cette façon-là?
Au tout début de son règne, d'abord, il faut se rappeler qu'elle est toute jeune. Et elle est inscrite dans la tradition des ducs de Bretagne. Les ducs de Bretagne sont des princes ayant rang de roi. C'était le terme que l'on employait à l'époque. Et en tant que tels, ils avaient une cour, ils avaient une activité diplomatique internationale. Et du coup, ils avaient aussi des supports et des moyens de montrer cette autorité souveraine. Anne de Bretagne va récupérer cela, mais elle va vraiment le transcender et passer justement donc de ses symboles à vraiment la symbolique de sa personne, mettre en scène sa personne et en fait installer sa personne. Il faut imaginer aussi qu'à cette époque, il n'y a évidemment pas de photographie, on ne sait pas à quoi ressemble ni le roi ni la reine. Et il va falloir qu'elle arrive à faire passer justement de cette iconographie basée sur les symboles, par exemple la mouchture d'Hermine ou l'Hermine au naturel, à ensuite comment elle fait pour placer son portrait réel et faire en sorte que sa personne soit non seulement connue, mais qu'elle soit reconnue, et après, on peut mettre sa personne en scène. C'est tout cela qu'Anne de Bretagne a su faire, et qu'elle a su faire la première.
Donc il y avait une cour au duché de Bretagne, et puis il y avait des musiciens, on jouait de la musique, donc il y a un excellent disque qui est paru déjà il y a de nombreuses années, qui s'appelle « Musique au temps des ducs de Bretagne », qui est un disque qui a été monté par Gérard Lomenec, avec beaucoup de gens qui ont participé, et ce sont des musiques sur plusieurs siècles, hein, faut pas... Donc les ducs de Bretagne ont existé longtemps, et on va écouter un morceau qui s'appelle « Douce dame jolie », donc il n'est pas du tout destiné à Anne de Bretagne, mais on peut imaginer qu'elle l'a entendu et qu'on lui a chanté, parce que ça a été écrit un siècle avant qu'elle naisse, par Guillaume de Machaut.
Comment qu'à moi lointaine soit-ce dame d'honneur, si m'est-ce vous prochaine par pensée nuit et jour, car souvenir me mène si de son séjour, ô beauté souveraine, vos gracieux atours, vos manières certaines et vos fraîches couleurs, qui n'épargnent même voix, tout dit son séjour, comment qu'à moi lointaine soit-ce dame d'honneur. Si m'est-ce vous prochaine par pensée nuit et jour, dame de grâce pleine, mais votre valeur, vos bontés souveraines et vos fines douceurs, en votre nous démène, mon si mi que ma amour, que mon camois lontaine soit ce dame d'honneur, si meste vous prochaine par pensée nuit et jour, mes désirs qui se peinent d'accroître mon labour, tant amour cuir en peine. Fleur, de toute fleur mondaine fasse ton mon retour, que mon camois lointaine soit-ce dame d'honneur, si meste vous prochaine par pensée nuit et jour.
Une musique jouée au temps des ducs de Bretagne, parce que c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, où nous recevons Gilda Salin qui va présenter une conférence intitulée Anne de Bretagne, première reine médiatique. Donc ce sera ce samedi 20 mai à 15h, excusez-moi, ça finit à 20h tout l'après-midi, mais à 15h à la Manu, donc l'arrêt de tramway c'est Manu, c'est vachement facile à trouver, c'est boulevard de Stalingrad, tout près de la gare de Nantes. Donc cette conférence, tu vas dire pourquoi tu penses que c'est une reine médiatique et surtout la première, tu vas commencer à nous expliquer, mais il y aura plus que ce qu'on entend à la radio, il y aura aussi des images. Donc tu vas présenter des images de l'époque, ou depuis d'ailleurs peut-être.
Alors uniquement des images de l'époque, presque d'une centaine de documents, aussi bien des enluminures que des gravures, des sculptures, des pièces de monnaie, des sceaux, etc. etc. Et on verra aussi d'où vient l'influence. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai évoqué que c'était la première, c'était une période de transition. Il y a aussi des influences extérieures, notamment sur cette utilisation de l'art pour mettre en évidence la personne physique, la personne réelle des souverains. Ça nous vient de l'Italie et plus particulièrement de Milan. Et donc, à cette époque-là, Charles VIII, puis Louis XII, puis encore un peu après, François Ier vont faire des conquêtes en Italie. Et c'est cet art institutionnel que l'on va savoir importer et réutiliser. Et d'habitude, sont plutôt les hommes. Et là, c'est parce que Anne avait vraiment un pouvoir souverain qu'elle va aussi pouvoir l'utiliser. Et puis, période de transition aussi, parce que c'est l'apparition de nouveaux médias. Et c'est pour cela que j'utilise aussi ce terme. Jusqu'alors, finalement, les documents étaient uniques. Une enluminure, c'est un exemplaire. On peut faire des copies, mais c'est un, deux, trois, guère plus. Mais à l'époque, on va aussi développer l'imprimerie, et dès lors on va avoir des ouvrages en plusieurs dizaines voire centaines d'exemplaires, donc on peut diffuser largement. Et puis c'est la première française, c'est pas la première européenne, mais c'est la première française qui va aussi savoir utiliser l'art de la médaille, qui en fait à l'époque n'est rien d'autre qu'un portrait, qu'un tableau, un portrait métallique que l'on peut édité en plusieurs exemplaires, alors qu'un tableau, finalement, c'est pareil, on en fait un exemplaire, éventuellement une copie, mais pas plus.
Alors, il faut rappeler, Gilda, que tu es responsable du monétaire au musée d'Aubray, donc la monnaie et la médaille, c'est la même chose ?
Alors, la monnaie, ça sert à payer, la médaille, c'est une pièce qui ne sert pas à payer, en quelque sorte. Et ce qu'il y a d'important, en effet, ça a été mon point de départ, mais la monnaie comme la médaille sont vraiment deux supports iconographiques parmi d'autres. Et qu'Anne de Bretagne va vraiment réutiliser, réinterroger pour pouvoir diffuser cette image. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est que c'est pendant le règne de son deuxième mari, Louis XII, que les pièces de monnaie vont voir apparaître le portrait du roi. Et c'est à partir de cette date-là, en fait, que le portrait va quitter la sphère privée, intime, pour arriver, s'exhiber dans la sphère public. Et vraiment, on va voir apparaître le portrait du roi et de la reine sur quantité de bâtiments, sur quantité de supports, et se diffuser très largement. Et si j'étais un tantinet iconoclaste, je dirais même que l'on a mis en scène le couple royal, et y compris la famille royale, les enfants. Finalement, Kate et William n'ont rien inventé.
Oui, donc c'est ça. Pour qu'ils existent, ils ont besoin d'être visibles.
Exactement.
Alors donc, ce qui se passe, c'est que tu dis c'est à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui a décidé ? C'est les progrès techniques, où il y a des gens qui ont théorisé ça dès le début. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait le déclic ?
Les deux, mon capitaine. En fait, c'est un petit peu tout cela. Il y a les progrès techniques, je l'évoquais à l'instant, avec l'invention et surtout le développement de l'imprimerie. Et puis, il y a un changement dans l'appropriation de l'image de soi. Jusqu'au 15e siècle à peu près, jusqu'au milieu du 15e siècle, dans les grandes familles, par exemple, on va avoir que les armoiries familiales, on va avoir les blasons. Mais à partir du milieu du 15e siècle, on va avoir des éléments individuels, des emblèmes. On parlera là de l'emblématique, où tu vas avoir un personnage qui est représenté par un symbole. Mais un symbole non plus familial, mais personnel. Et ensuite, après cette prise de conscience de l'individu dans une famille, tu vas avoir la prise de conscience, cette fois, de l'individu dans son acception physique. Et c'est de là, justement, que tout part. C'est aussi de l'Italie. Et c'est à ce moment-là, les contacts entre France et Italie qui vont tant influencer. Et en fait, Anne de Bretagne est une contemporaine de tout cela. Et c'est aussi son rang, son statut de duchesse souveraine qui lui permet d'utiliser à dessein, justement, ces évolutions.
Amis auditeurs, vous vous rendez compte que ce sujet est passionnant ? Eh bien, vous n'en saurez pas plus maintenant sur Alternante FM. Il faut vous déplacer à la Manu ce samedi 20 à partir de 15h. C'est à 15h cette conférence. On va rappeler dans quelques instants ce qu'on retrouvera dans cette journée à la Manu. Mais avant, on va écouter un des prédécesseurs au duché de Bretagne d'Anne. C'est Pierre de Dreux, qui était au XIIIe siècle duc de Bretagne et qui était aussi compositeur et poète, et on va écouter un morceau qu'il a écrit. Pierre, nos auditeurs ont vu que ça va être formidable cette journée du 20 mai parce qu'il y aura Gilda qui va raconter Anne de Bretagne sous un autre angle, on va dire. Et puis, mais il n'y aura pas que Gilda, il y aura cette autre conférence avec Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebeau qui sera aussi une conférence illustrée, c'est important de le dire, et là, illustrée par des... un film, enfin une série télé ou de DVD qu'ils ont produite autour de l'histoire de Bretagne.
Oui, alors il y a des extraits de leur DVD, et ça part de l'Armorique même d'avant, hein, de l'origine
géologique
pour arriver actuellement. Voilà. On parlera des bonnets rouges, on parle de tout. Alors, bien entendu, on ne couvrira pas tout parce que c'est tellement long, mais les conférenciers sont des gens intéressants parce qu'il y a un journaliste et un historien et qui connaissent parfaitement leur affaire. Donc ça devrait plaire énormément.
Et puis, puisque c'est une journée conviviale, ça veut dire qu'on sera fini, sera encore possible de discuter avec eux, de leur poser des questions et de les rencontrer vraiment, puisque ce que vous avez décidé pour cette journée, c'est évidemment de déguster des crêpes ensemble, mais aussi de danser et d'écouter de la musique. Donc ce sera avec quelques musiciens et danseurs du cercle Tréteau et Terroir.
Tréteau et Terroir, donc entre les deux conférences, on pourra déguster des crêpes. Des crêpes bretonnes à 100%. Et on pourra aussi danser. Et pendant la conférence de Monnier, il y aura au moins un chanteur de Canadiscan et peut-être un deuxième.
Alors, mais la parce surprise que est là. On a écouté de la musique ancienne ou un peu plus récente avec un texte ancien avec Triane au début, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont chanté l'histoire. Et justement, on va écouter une surprise historique, on va dire.
Allô, allô, Fernand, quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ?
Tout va très bien, oh ma compagne exquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise que depuis vendredi matin, les ouvriers, quelle bêtise, ont occupé les entreprises. Mais à part ça, bien que ce soit la crise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Fernand, quelle nouvelle ? Si les chantiers sont occupés, expliquez-moi, Marie fidèle, comment cela s'est-il passé ?
Cela n'est rien, ô ma compagne exquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise, les employés, les techniciens, tous très unis, quelle bêtise, et tous les agents de maîtrise sont sur le tas, grand Dieu quelle sottise, mais à part ça, tout va très bien.
Allô, allô, Fernand, quelle nouvelle ? S'ils occupent tous les chantiers, expliquez-moi, Marie fidèle, comment cela est-il arrivé ?
Cela n'est rien, ô ma compagne exquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise que dans les chantiers, c'est vaurien. Comme chez eux, ils s'organisent et qu'en accord, ils fraternisent. Mais à part ça, pour ma compagne exquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Fernand, quelle nouvelle ? Quand allez-vous les expulser ? Expliquez-moi, car je chancelle. Les méfaits de ces ouvriers.
Eh bien voilà, ô ma compagne exquise, ils ont foutu les ingénieurs à la porte de toutes leurs entreprises.
Et oui, de tout temps, on a chanté l'actualité. Et cette chanson, donc décalquée déjà de « Tout va très bien, Madame la Marquise », interprétée par Roland Brou, Patrick Couton et Barborine Blaise, est extraite d'un superbe disque qui s'appelle « Révolte, résistance et révolution en Bretagne ». Ce sera l'un des sujets, évidemment, de la conférence de Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebeau. Et ce sera à 17h, donc ce samedi 20 mai. Et je dis dimanche, c'est pas par hasard, c'est que dimanche, l'Agence culturelle bretonne vous propose un vide-grenier. Donc vous pouvez venir, alors si vous n'êtes pas inscrit, ça va être un peu dur maintenant, mais vous pouvez venir faire vos courses, place de la Petite Hollande, et c'est toujours dans le cadre de la fête de la Bretagne. Donc ce dimanche 21, et la musique qu'on écoute, c'est l'un des groupes que vous pourrez entendre, parce que vous pourrez venir... certes acheter peut-être le premier disque de Gilles Servat en vinyle, je ne vous le promets pas, on en trouve nulle part, mais on ne sait jamais, mais vous pourrez manger des crêpes là aussi, peut-être boire un coup de bière bretonne et puis écouter la musique, et c'est Alan et Christophe qui jouent là, qui seront avec nous dans l'après-midi de dimanche. Eh bien, je vous retrouve ce dimanche 21, tous évidemment à mes auditeurs, le million d'auditeurs qui écoutent cette émission sera place de la Petite Hollande ce dimanche, et puis une partie de ces gens-là seront donc ce samedi 20 à la Manufacture des Tabacs à Nantes dans l'après-midi. À mes auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour encore un grand événement en perspective. Et puis Pierre et Gilda, je vous dis qu'en à vous.
Qu'en à vous, mes chats.